Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut.
Alors vous aurez reconnu la douce voix de quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
C'est Gertrude Codename en fait.
C'est ça. Non, je pense que vous aurez reconnu la belle et douce voix de Tina Arena. Et pourquoi j'ai choisi Aller plus haut, ce titre évocateur de Tina Arena? Parce qu'on reçoit Kevin de chez Hello. Salut Kevin.
Salut.
Qu'on a déjà reçu pendant quelques heures dans un épisode précédent.
C'est ça, là je commence la prochaine fois, je viens en pantoufle.
Et du coup là tu t'es dit, bon, si jamais je viens pendant 5 heures, je vais laisser un compère avec Proxy Jeux. Et du coup c'est l'auteur de Arena for the Gods, Maxime.
Salut.
Et donc Arena, Tina Arena, voilà le lien merveilleux. En plus, je me suis dit que pour un musicologue, c'était une
très
belle
bien.
Référence.
Ouais, très bien.
Grosse vanne.
C'est ça. Aujourd'hui, hier sortie de Arena, est-ce que Kevin, t'es déjà allé voir chez Philibert si le jeu prenait?
Alors, moi j'ai déjà eu un indicateur la semaine dernière, j'étais à Toulouse sur le festival Alchimie du jeu, où le jeu
était en vente.
Le jeu était en vente en avant-première, et vu qu'on n'était pas très très loin de la boutique, je voyais beaucoup de gens à peine sortis de table aller chercher une boîte.
Leur petite boîte.
Là, sur le festival, je pense que Maxime a déjà fait quelques dédicaces, il n'a pas encore le poignet brisé loin de là, mais en tout cas, c'est...
Oui, il l'a, mais pour d'autres raisons.
Ouais. Hein.
Ouais, ouais. Non, mais on s'en
grosse soirée, grosse soirée. D'accord.
Très, très grosse soirée.
Non, mais en tout cas, voilà, ça fait maintenant quelques temps qu'on a pas mal de retours positifs en festival, qu'on a fait tester le proto des joueurs. Et c'est vrai que là, les premiers indicateurs, on va dire, même si j'aime pas trop le terme, on va dire de taux de conversion, c'est assez facile de dire, j'ai surkiffé un jeu quand t'as pas encore la boîte à acheter. Après, surkiffé un jeu et quand on te fait la remarque, maintenant il est à 32€ en boutique, est-ce que tu irais l'acheter? Là, on va dire majoritairement, pour l'instant, la réponse est oui. Donc.
D'accord.
On va toucher du bois pour que ça dure.
Et donc Maxime, toi tu étais auteur de Big Book of Madness, toujours chez Yellow, mais aussi de Le Truc le Plus, également chez Yellow, qui a fait peut-être moins parler de lui, même si je pense qu'il s'est vendu convenablement. Vu que c'est un jeu d'ambiance, on en parle forcément moins dans la sphère gamer, mais du coup ça touche un public qui va pas parler sur internet, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Kevin, est-ce que tu sais ce qui s'est vendu le plus entre Big Book et Le Truc le Plus du coup?
C'est Big Book.
Big Book malgré tout.
Ouais, largement. Ouais.
Et surtout que Big Book a eu l'avantage d'être très fortement localisé dans de nombreuses langues. Dans les trucs un peu exotiques, il y a une version chinoise.
Ouais, non, mais c'est ça la grosse différence. Hein. Le truc le plus n'a été fait que en français.
C'était le truc le plus français, quoi.
Exactement. D'accord. Tout à fait. C'est assez dur à traduire parce que c'est que ça. Sur des sous-entendus, sur des mots qui ont un double sens. Donc c'est très très difficile à traduire. Mmh. Alors que le Big Book a reçu un accueil mondial qui est assez étonnant.
On a été recommandé au Spiel.
Oui, tout à fait. Ça, c'était pas encore le cas.
C'est assez fou. Au Spiel Expert, parce que la version allemande, en fait, est sortie. Alors, le jeu était sorti en octobre 2015 sur Essen, en français et en anglais. Mais vu que la version allemande est sortie un peu plus tard chez Heidelberger, il était encore dans le créneau du Spiel 2017 et il est dans la liste des recommandations dans la catégorie expert.
Et alors comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Est-ce qu'on fait palper un peu sous la table ou est-ce que c'était une grosse surprise parce que... Ou bien vous êtes contacté quand même avant pour être informé avant la révélation officielle, disons?
Alors, sur Big Book, la recommandation, on s'y attendait pas forcément. Parce que forcément, nous, on va dire, dans la vie du jeu, nous, la sortie, c'était octobre 2015. Donc, on s'était dit, s'il n'est pas nominé au Spiel l'année, son truc. Et on avait un peu oublié le fait qu'il arrivait un peu plus tard en Allemagne. Donc, on n'y pensait plus forcément trop. Après, il y a toujours des bruits de couloir un peu avant. On nous a dit, Book, le jury, il a bien aimé. Pareil sur La Forêt Mystérieuse pour le Kinderspiel.
Ouais,
mais...
Belle surprise. Là, qui est un titre plus récent pour le coup.
Oui, plus récent, qui est sorti à Essen 2016. Donc,
qui est le début des jeux enfants, hein, c'est ça, le début d'une gamme jeux enfants?
Alors, c'est un jeu pour enfants qui est sorti chez Yellow, qui a été développé au départ par Benoît Forget et qui a été repris. Ouais. Par la suite, par Aurélie, qui est la chef de projet de la gamme enfant. C'est pas encore un jeu de la gamme enfant, parce que la gamme enfant, elle aura un nom de marque différent, ainsi de suite. Mais en tout cas, l'équipe qui travaille sur la gamme enfant, c'est l'équipe qui a travaillé sur La Forêt Mystérieuse, et ça valide un peu le sérieux, la qualité du travail, donc c'est plutôt
d'accord,
cool.
Donc là, vous avez comme challenge que la gamme enfant, chaque année, Kinderspiel nominé.
Non, ça c'est un peu compliqué. Après, c'est comme tous les prix. Il y a toujours une part d'aléatoire, qui fait que parfois il y a un jeu qui se retrouve nominé sur lequel tu n'y attendais pas, ou inversement un jeu que tu as vraiment poussé ou tu croyais beaucoup et il rate le coche, quoi.
Ouais.
Et de toute manière, si on avait la recette pour faire des jeux géniaux qui gagnent le Spiel tous les ans, je pense que ça fait longtemps que Yellow ou un autre gagnerait le Spiel tous les ans, quoi.
D'accord, est-ce que tu as trouvé la recette ?
La recette, ouais, bien sûr, je l'ai trouvée, mais par voilà. contre, les éditeurs ne le reconnaissent pas, donc ils ne
ah,
le
ouais,
voient pas en
fait, c'est
prototype.
Ton premier jeu, il est calibré pour et personne n'a jamais
voulu. Exactement, ouais, c'est ça. Du coup, je reste dessus, je reste persuadé. Non.
D'accord, on va revenir chez toi, enfin chez toi.
Bah, tu peux.
Voilà. Métaphoriquement parlant, mais Maxime, du coup, ouais. Donc, c'est C3 Arena qui est sorti donc, hier, officiellement.
Oui.
T'as d'autres jeux édités ou pas ? Alors, Big Book est le
Big Book est le truc le plus. Non, c'est mes seuls jeux édités à l'heure actuelle, que je ne me trompe pas. Non, oui, c'est bien les seuls jeux. J'ai des projets qui sont en cours de.
Des projets ludiques, tu veux dire ?
Oui, des projets D'accord. ludiques, tout à fait. Non, il y a des jeux qui sont en cours de développement, donc c'est toujours difficile d'en parler. On ne sait pas combien d'années ça va prendre. J'ai les bons exemples déjà avec le Big Book et l'arène. Et j'ai beaucoup de protos, j'ai beaucoup de choses à montrer. J'ai vraiment envie de montrer et de faire et de créer plein de jeux.
Et donc, Arena, c'est à quel moment que tu le présentes à Yellow ?
J'ai regardé les contrats il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est à l'été 2013.
D'accord.
Que je le
rappelle, on est en 2017. Hein.
Ouais, voilà. On est en 2017.
Et pourtant, c'est un jeu relativement, disons, comparable au niveau poids, disons, King of Tokyo, pour rester chez le même éditeur.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et même au niveau, mécanique, etc. Il y a des similitudes. Et pour un jeu entre guillemets sur lequel l'éditeur a travaillé sur des trucs similaires, qui reste un jeu qui n'est pas un jeu de 3 heures. Voilà, ça montre un peu aux auditeurs le temps aussi d'édition.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment très long. Mais autant, il y a toujours des raisons et elles sont toujours très différentes l'une de l'autre. Pour le Big Book, ça a pris le même temps. Mais il y avait un temps de développement qui était vraiment énorme et moi ça m'a demandé
un équilibrage de production notamment sur les petits livrets etc. qui
oui,
ont mis du temps à être résolu.
Il y a eu plein de petites choses mais après il y avait surtout un équilibrage de cinglé à faire parce que c'est un coopératif qui est un peu exigeant et qu'il fallait trouver la bonne jauge pour les bons joueurs et après l'arène c'est aussi une confrontation avec plein d'autres projets liés.
L'arène c'était le nom du proto du coup.
Ouais, Arena.
Ah d'accord,
j'ai encore du mal mais ouais. Arena avait se retrouver dans un calendrier qui prenait du retard, qui était en confrontation avec plein d'autres sorties Yellow, qui voilà, ça a mis du temps avant de ressortir un peu du placard et d'être vraiment abouti. Mais c'est clair qu'en temps de développement pur, c'est beaucoup plus rapide qu'un Big Book.
Et donc 2013, et toi, tu le traînais depuis combien de temps, entre guillemets ?
Moi j'ai l'impression que celui-là j'ai toujours traîné. Alors c'est bien, on m'a fait faire un journal d'auteur il n'y a pas longemps sur le sujet et
d'accord.
je me suis rendu compte qu'en fait ce
et
jeu-là.
Sur Trick Track du coup c'est...
Ouais,
ça marche.
C'est publié sur Trick Track. Et que ce projet-là, depuis que je suis ado en fait, même peut-être un peu avant, j'avais déjà, avec mes potes, dit attendez, on met deux cases hexagonales, là, on se met sur la gueule, on lance en 2D. Et... Enfin voilà, j'avais déjà des choses qui démarraient. Après, forcément, un proto ça évolue tellement vite et tellement par à-coup, on le ressort pas pendant 2 ans, on rebidouille un truc, ça change. Complètement, mais c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on a commencé un proto.
C'est vrai qu'il a on pourrait comparer entre guillemets à un MOBA où on choisit une monture, etc. Mais du coup, vu le temps, l'époque dont tu parles, finalement, les MOBA n'étaient pas à la mode.
Ça n'avait rien à voir.
Toi qui as influencé les MOBA, ils ont tout venu prendre chez toi.
Personne ne l'avait vu encore à l'époque, mais ça évolue en permanence en fait. Un prototype, jusqu'à ce que l'objet fini sorte en boutique, c'est tout le temps en train d'évoluer. Il faut toujours régler quelque chose, c'est jamais fini.
Alors moi, il y a un truc que j'aime bien dans Arena, c'est le côté tes points de vie, c'est ta monnaie. Donc si tu payes cher au début, tu auras moins de points de vie. Et c'est un équilibre finalement assez évident au niveau game design. C'est j'investis beaucoup, mais plus tard, je vais le payer ou bien j'investis moins. Mais peut-être que par la suite, ça me permettra de rester plus longtemps en vie. Ça, c'était dès le début ou c'est quelque chose qui arrivait plus tard, ce côté-là ?
C'était pas dès le début. Des débuts, quand je parle de le truc remonte quand j'étais ado, c'est clair qu'on n'en était pas à ce niveau-là de subtilité à l'époque. Par contre, c'est quelque chose qui a vraiment donné le caractère du jeu. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais trouvé cette règle-là, ça, c'est un des trucs qui n'a pas bougé. Quoi, qui se dit, ah oui, c'est ça en fait, la solution, elle est là. Les points de vie, c'est des PV, c'est des points de victoire, et il n'y a qu'un seul mort, et c'est celui qui en a le plus, et donc il faut les cacher. Enfin, tout s'embriquait, toutes les choses se sont embriquées le jour où j'ai dit, ok, les points de vie, c'est des points de victoire, c'est notre monnaie, et c'est avec ça qu'on va acheter nos équipements de départ.
Et l'aspect de face, c'est-à-dire achat, je me rappelle plus exactement, il y a une monture.
Ouais, il y a une arme, une monture, un bouclier, un sortilège.
Voilà, déjà, donc il y a 4 éléments. Ce côté découpage en 2 phases, donc achat, puis on se met sur la gueule, c'est quelque chose qui était aussi là rapidement.
En fait, une fois que j'ai... Pour moi, c'était très naturel d'acheter l'équipement et ensuite de faire la baston. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments...
Ça vient d'où, ce côté naturel ? C'est des jeux vidéo, d'autres jeux de société ?
Alors là, si je le savais... je pense qu'on est... On est multiples et on est de beaucoup de variables. Ouais, non, mais... j'ai pas la réponse à ça. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas...
Mais ça t'a semblé naturel.
Je me suis jamais posé la question de le faire autrement. Quand... Dans le prototype, dans l'évolution, dans le développement, les gens disaient « Ah bah tiens, on pourrait avoir des cartes au fur et à mesure, les acheter. » je trouvais pas ça naturel. Je trouvais plus naturel de OK, on fait notre équipement. Je trouve que ça lui donnait beaucoup plus d'importance à cette première phase, de la faire en une fois, d'un coup, et qu'elle soit définitive, qu'elle ait beaucoup plus de conséquences, qu'elle évolue au fur et à mesure de la partie.
Et donc là, le proto arrive en 2013 chez Yellow. C'est ouais. Qui s'en occupait au début?
Parce que
2013,
c'est
déjà il y a 4 ans, il y a eu du changement de personnel, etc.
Bah, c'est forcément Gabriel Durnerin, parce que voilà, j'ai une histoire avec lui, hein, donc on en parlera peut-être en off. Mais j'ai été amené chez Yellow par Gabriel, parce que c'est un ami à moi, c'est avec lui que j'ai monté le Café Jeu à la fin de l'ours, etc. Donc voilà, forcément, l'idée connivence faisait que j'avais un accès chez Yellow qui était plus facile.
Ah ouais, bien sûr, ouais.
Après, c'est pas forcément. Il a participé un petit peu au début.
Ouais, et puis après, ce que tu as dit, le jeu a été mis un peu de côté.
Tu vois, il a été mis un peu de côté. Il y a Théo Rivière qui a mis le nez dedans à un moment donné, ouais. Mais voilà, très peu. Après, il est reparti. Après, il y a d'autres. Enfin, voilà, il est passé de main en main. Et c'est aussi pour ça qu'il a pris beaucoup de retard. C'est qu'à chaque fois, il fallait reprendre à zéro un petit peu le projet.
Et alors, quand ça passe comme ça entre plusieurs chefs de projet, alors il y a toujours toi, l'auteur, qui est derrière. Est-ce que tu ressens finalement une patte de chef de projet sur un projet qui, sans repartir de zéro forcément à chaque fois, mais va évoluer du fait de regard de ce chef de projet, sachant
oui.
que voilà, Théo par exemple est auteur, Gabriel
ouais, non mais là il n'y a pas forcément, j'appellerais pas ça une patte, mm-hmm. mais il y a une manière de travailler qui est différente, mais c'est plus humain je pense que le simple fait de, il y en a qui sont auteurs, il y en a qui sont spécialisés dans la règle de jeu, c'est plus une façon de travailler, et il y en a qui vont avoir plus de sensibilité sur du débugage de règles et d'autres plus sur du matériel et plus sur... Et après bah, c'est sûr qu'en tant qu'auteur il faut s'adapter à ça et il faut réussir à suivre un peu le rythme aussi, parce que des fois c'est assez compliqué quand on est auteur nous de travailler, parce que c'est pas notre métier à temps plein, hein. on en vit enfin pour quelques-uns,
ça viendra quand quelqu'un aura reconnu
ouais, voilà, il y a un débat, mais non mais en tout cas moi c'est pas mon métier ouais. à temps plein, j'ai un métier et du coup quand on me dit bah là ça y est faut travailler dessus, c'était pas forcément le moment où j'étais disponible pour le faire, etc. Donc voilà, il y a plein de variables qui font qu'il faut se réadapter à chaque fois, et le chef de projet qui s'en occupe est une de ces variables là effectivement, c'est différent mais c'est les mêmes conséquences quoi.
Après faut rajouter un truc aussi sur le dernier, enfin maintenant chez Yellow, alors quand Gabriel avait récupéré le jeu il était seul chef de projet, maintenant il y a toute une équipe,
ouais, maintenant il y a une vraie équipe
et même si c'est Timothée qui était le chef de projet référent sur Arena,
il n'y a pas que son regard. Ouais.
Voilà, il n'y a pas que son regard. Ils sont dans le même bureau, ils discutent beaucoup, ils échangent et finalement...
Oui, du coup, moi, Timothée devient mon ouais. interlocuteur et ouais. il a certaines affinités donc, sur par exemple du débugage de règles où il a vu plein de petites choses qui étaient vachement pertinentes. Ouais. Mais je pense qu'après, dans l'évolution globale du projet, du design, etc., là, c'est vraiment l'équipe entière de développement.
Et alors, la deuxième phase, justement, il y a l'activation de ces cartes qu'on a acquis dans la première phase à l'aide de dés, et c'est vrai que c'est un mécanisme qu'on voit pas mal depuis quelques années. Ça, c'est arrivé à quel moment ?
Bonne question, j'en sais rien, pour ouais. être tout à fait honnête. Je pense que c'est arrivé assez tôt.
C'est pas le fait qu'il y ait plein de jeux qui utilisent ça finalement,
en fait,
qui t'a fait approcher ?
Non, pas du tout. Dès les débuts, mais en fait, je parle d'une époque où je ne connaissais pas le jeu d'auteur moderne. Je connaissais le Monopoly, vaguement HeroQuest vite fait. Et déjà avec mes potes, je faisais, attends, on a trois figurines, viens, on leur donne chacun un pouvoir et on lance des dés et ça va s'activer avec les phases des dés. Et ça, c'est vraiment un truc. Alors après, ça peut paraître un peu, je sais pas, prétentieux, mais je sais pas d'où je l'ai tiré. Quoi. Je vais relancer.
Donc,
je pense qu'il doit y avoir un côté jeu vidéo, je sais pas d'où ça vient.
Mais je sais pas, parce que pour le coup, le dé est vraiment un objet de jeu de société.
Ouais, ou quelqu'un avait dû me montrer des jeux de figues qui devaient fonctionner un peu comme ça. Et je sais pas. Je sais. Mais il y avait un côté baston et mes pouvoirs, c'est les dés qui vont les faire.
Et d'ailleurs, si tu regardes le carnet d'auteur sur Trick Track, il y a encore les premières illustrations des cartes où c'est encore des D6.
Et il y avait déjà ce système de relance qui est pareil, King of Tokyo l'a un peu popularisé, c'est-à-dire le système entre guillemets Yams, mais plus rigolo, enfin avec des objectifs aux relances. Il y avait l'activation de dés, la relance était déjà là aussi.
Non,
ça s'est arrivé par la suite.
En fait, il y avait de la relance, mais c'était, alors ça l'est toujours en partie, mais c'était juste un pouvoir, c'était certaines cartes qui me permettaient d'avoir plus de relance qu'un adversaire ou certains effets de jeu. Je voulais pas faire justement ce système Yams de on a trois relances et voilà, je trouvais ça classique en fait et ça moi m'intéressait pas trop. J'ai quand même, il y a eu toute une version où il y avait qu'une relance point barre. Le contrôle qu'on avait dessus était très frustrant, donc voilà, il fallait trouver un entre deux.
Ça reste un jeu court, hein, donc
une seule...
la frustration
ouais,
est
de
moins.
De toute façon, il y en a, mais il fallait trouver à quel endroit la mettre et à quelle quantité. Là, il y a une relance, donc ça permet d'avoir un tout petit contrôle sur ce qui se passe. Et après, il y a quelques équipements qui permettent d'augmenter ce nombre-là de relances.
C'est vrai que on avait discuté avec Kevin du matériel, du côté 3D qui simplifie les lignes de vue, qui voilà, tout ça. Et est-ce que à quel point est-ce que toi, tu es impliqué comme ça dans cette réflexion sur le matériel qui participe voilà, on voit sur Kickstarter des jeux de figurines qui ne sont pas forcément originaux au niveau des mécaniques, mais que le matériel est important pour l'expérience de jeu. On le voit sur Outlive, par exemple, les meeples sont peut-être plus pratiques que que les figurines. Par contre, c'est plus immersif et l'immersion participe à l'expérience de jeu, à l'expérience de la partie. À quel point est-ce que toi, tu es impliqué justement sur des questions de production et à ce niveau-là, ouais.
Alors, ouais, y a un peu de questions, mais l'implication de l'auteur, elle varie en fonction des éditeurs et elle varie en fonction des projets, d'un jeu à l'autre, entre le truc le plus où voilà, j'ai fait la liste de mots et après derrière le design, bon, bah, j'ai regardé les fichiers, mais je n'avais pas forcément une implication grande dans le projet. Le Big Book où bah, tout le développement, la moindre règle, je voulais vraiment maîtriser la totalité du truc. Là, l'arène tombe à un moment donné où j'ai plein d'autres projets, plein de boulot, donc je suis malgré moi un petit peu obligé des fois de dire bah oui, allez-y, avancez.
C'est pas trop frustrant ça justement de dire c'est mon bébé, ah, mais ok, ça, je vous le laisse.
Ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal à être dans cette situation-là. Mais à un moment donné, bah, par exemple, pour les figurines, pour l'anecdote, quand c'était Gabriel qui avait le projet, il voulait faire des Lego, éclipser chaque équipement sur les figues en direct, et ça avait de la gueule, mais on s'est vite rendu compte que le jeu, il était à 70€, voilà. 80€ en boutique, et pour un jeu de baston d'une demi-heure, ça n'allait pas. Donc, il y a toujours des envies d'auteur, il y a des problématiques d'éditeur, il y a des réalités de marché, etc. Il faut faire des choix, et à un moment donné, bah, il faut se mettre d'accord, mais il faut aussi accepter en tant qu'auteur que bah, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, le marché il est comme il est, et l'éditeur, c'est lui qui prend un risque financier qui est un peu plus grand. Après, je pense que c'est aussi important de réussir à maîtriser sa création, parce que c'est quand même son nom sur la boîte. C'est une position qui est très, très, très difficile à définir et qui, je pense, va se construire au fur et à mesure des années. On est encore dans un milieu qui est en train de naître, et justement, ces positions-là d'auteur, d'éditeur, de créateur, de... C'est des choses qui sont pas définies.
J'en parlais tout à l'heure, il y avait deux enfants avec qui je discutais des jeux qu'ils ont fait, et je leur parlais d'éditeurs de livres, est-ce qu'ils pourraient comparer, ils avaient aucune idée qu'il y avait des éditeurs et des auteurs, c'était pas évident quoi. Bon, c'est des gamins, hein, mais chez le grand public, même au cinéma, le grand public ne connaît pas toujours le réalisateur du film. On est un peu comme dans le jeu de société finalement, où c'est aussi une œuvre collective quelque part.
Ouais,
mais et puis après, on est aussi en France où le côté auteur à quelque chose de peut-être plus important qu'ailleurs, avec le cinéma d'auteur de Godard et compagnie qui a été mis en avant depuis des années, peut-être. Bon, je pense que ça dépend.
Ouais, alors après, le terme, mais dans les réalités, en tout cas, dans le monde du jeu, l'auteur, ça veut rien dire, malheureusement, pour l'instant. Et c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Et chacun fait un peu à sa sauce. Quoi.
Au niveau du statut, etc., il y a des choses à faire encore.
Après, pour continuer la comparaison avec le cinéma, c'est qu'un réalisateur, il est capable de faire son film de A à Z. Il a les connaissances techniques et tout ça.
Ça dépend,
Il s'entoure d'une équipe, mais il connaît le process. Et finalement, le rôle du producteur, c'est juste d'apporter des financements pour réaliser ce process. Alors que dans le jeu de société, c'est un peu différent. Je pense que si Maxime avait dû développer un jeu de A à Z, aller faire des devis en Chine pour les fabrications des pièces, en fait, ben c'est une partie finalement de compétences que les auteurs n'ont pas et qui doivent un peu déléguer à l'éditeur. Et c'est peut-être pour ça le truc, voilà, est en train de se construire. C'est peut-être pas forcément évident, mais voilà, il y a des synergies un peu à créer aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça, je pense, auteur de jeu et réalisateur de cinéma, on est un peu dans des choses différentes, quoi.
Puis dans les compétences, plus se comparer aux
développeurs de jeux indé qui parfois peuvent faire un truc tout seul, mais l'éditeur de jeux vidéo a ce rôle-là de réseau, de connaissance du marché, qui va orienter, par exemple Devolver, hein, qui édite des jeux qu'on pourrait dire indé, alors qu'ils sont édités par un éditeur. Et il y a toute une connaissance que n'a pas forcément le développeur, qui lui est là à coder son truc et à essayer de faire un jeu super contemplatif, etc. Et derrière, il va dire ouais, ok, mais si tu veux le vendre ton jeu, il faut faire ça, ça, ça. Peut-être qu'au niveau des graphismes, on peut faire ça, etc. Il y a peut-être plus de comparaison avec le jeu vidéo qu'avec le cinéma, ouais. Et pour revenir donc sur des bretzels et des jeux, Kevin, toi, il y a 2 ans, je t'avais interviewé, t'étais encore, encore bénévole. Guillaume Montier, je nous fais des filouteries. Il y a un dossier sur la filouterie d'ailleurs.
Le plus bel auteur strasbourgeois. Mais c'est pas, j'ai pas encore de jeu édité.
Ouais. Et donc, toi, il y a 2 ans, c'était ton baptême de Débretzel et des jeux pour la première édition. Il y avait déjà Yellow. Et c'est là que tu avais rencontré Mathieu et Théo.
Et ouais, c'est là que tout a commencé. Alors, pour la petite anecdote, le mercredi avant Débretzel et des jeux, Yellow poste l'offre de charger des événements. Le jeudi, je vais voir Gauthier à la boutique en disant hey, « Eh, je suis bénévole pour quel éditeur ?» Il fait « Pour Yellow ». Je fais « Ça sent le mariage arrangé ». Il fait « Comment ça ?»« Ben, il cherche quelqu'un, je suis au chômage. »« Ah ben, je savais pas qu'il cherchait quelqu'un. » Le samedi, je me présente sur le stand Yellow. Je vois Théo en disant « Eh, je suis bénévole ». Il fait « Ok, c'est cool, c'est ça les jeux à expliquer ». Et un peu plus tard, je lui fais « Ah, j'ai ramené mon CV parce que vous cherchez un chargé des événements ». Il fait « Oh, ok, cool ». Et comme le contact s'est super bien passé avec Mathieu et Théo, même si c'est pas pour ça qu'ils m'ont embauché, mais en tout cas ça a été un vrai plus, parce que forcément quand je suis venu à l'entretien d'embauche,
il y a de l'humain là-dedans aussi, ouais.
Ils savaient que le mec, tu le mets derrière une table de jeu, il sait expliquer un jeu en gardant le sourire et en faisant marrer les gens, ce qui est quand même un plus quand t'es chargé des événements.
Et du coup là tu viens des Boîtes Allées des Jeux en 2017, donc 2 ans plus tard. Alors déjà, vous avez pris une table à l'intérieur ou extérieur cette fois ?
Extérieur.
Pour quelle raison ? Et regrettes-tu ce choix ?
Absolument pas, il fait trop chaud à l'intérieur. Il fait trop chaud, c'est trop bruyant. Et non, et moi, enfin, des festivals à l'intérieur, on en fait toute l'année, quoi. C'est Toulouse, Montpellier, et tout ça.
Il y a Paris l'Unique qui est un contre-exemple.
Voilà, et ben justement, les festivals en extérieur, moi je trouve qu'il y a toujours une ambiance beaucoup plus détendue à la cool. Alors certes, là, en début d'après-midi, on a un peu regretté parce qu'il y a eu un petit orage, mais il y a eu 3 gouttes de pluie. Et ça va, on n'est pas en sucre, on n'a pas fondu, on a un peu replié les tables et tout ça, donc ça va.
Est-ce que tu es venu, du coup, pour essayer de recruter quelqu'un cette fois-ci ?
Non, on n'a pas de recrutement en cours. On cherche un graphiste, mais là, les recrutements sont déjà en cours, on a les entretiens en ce moment, donc non, on recrute personne. Peut-être l'an prochain, qui sait.
T'as dit aux bénévoles, non, pas cette année, ça m'est arrivé à moi, ça vous arrivera pas à vous ?
Non.
D'ailleurs, vous avez des bénévoles ou vous êtes venu avec une équipe ?
Alors, je suis venu avec un animateur professionnel qui anime régulièrement pour Yellow.
Un animateur professionnel qui est juste à ta gauche.
Je suis venu avec Maxime aussi. J'ai 2 bénévoles mis à disposition pour le festival. Alors forcément, vu que je suis de la scène strasbourgeoise, il y a l'ancienne asso dans laquelle j'étais, la sauce au jeu, qui est la meilleure de toutes. Forcément, ils avaient envie d'animer pour Yellow, donc ils ont envoyé des gens et c'est cool. Il y a aussi des gens de rue des Jeux à Mutzig qui sont là pour nous filer un coup de main. Ils sont plutôt sympas. On a pris un peu de temps ce matin pour leur faire jouer justement Arena, comme c'était le jeu qui vient de sortir. Ouais. Ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de jouer, qu'ils ne maîtrisent pas comme du Codename ou du King of Tokyo. Et ça se passe très bien, c'est cool. Il y a une bonne ambiance et on n'a pas à se plaindre.
Et donc on peut jouer à quoi chez Yellow pendant Arena forcément. King of Tokyo toujours.
Il y a 2 tables d'Arena, mais le jeu est doublé. Quoi. C'est,
2 tables rare, où ouais. Tu mets un jeu par table ou...
Un jeu par table, ouais.
Un jeu par table, d'accord.
Et après, on a ceux qu'on appelle les classiques et les indispensables. King of Tokyo, Quirkle, Codename Image. On a ramené Time Bomb aussi, parce que Time Bomb, c'est trop cool.
Tu peux y jouer à nombreux en plus.
Voilà, en festival, ça tourne bien. Et comme notre ami Christian Lemay est un peu loin au Québec, et même s'il adore les bretzels, il n'a pas pu venir, donc on a ramené un mot pour mot surdimensionné et une boîte de Kipergan pour aussi un peu faire tourner ses jeux à lui, parce que pareil, c'est des très bons jeux de salon.
Mot pour mot, se joue aussi jusqu'à 8, et Kipergan aussi jusqu'à un paquet de joueurs.
C'est ça.
D'accord, et Maxime, toi, tu animes du coup pas mal d'étapes d'Arena, j'imagine, t'as eu des dédicaces à faire ?
Ouais, c'est ça. J'explique quelques parties, je joue avec les gens,
Est-ce que quand tu expliques, tu dis que t'es l'auteur ? Parce que c'est toujours. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux ? Je pense que ça doit être une place un peu.
C'est une position qui est un peu difficile.
Du coup, c'est Kevin qui dit c'est l'auteur ?
Ouais, généralement, il y a 2-3 animateurs, justement, il y a 2-3 bénévoles, 2-3 animateurs qui font vous profitez de l'explication de l'auteur de jeu, donc ça me facilite ça, ce travail-là. Après, cette réflexion-là, cette situation-là, je la retrouve beaucoup moi dans mon travail parce que je suis gérant d'un café-jeu, donc j'anime des jeux tous les jours et tous les jeux. Mais forcément, il y a mes jeux dans mon café et des fois, je les sors aussi.
Et ça t'est arrivé t'animes une table, que les gens ne sachent pas que t'es l'auteur et qu'ils se disent...
Généralement, je ne le dis pas pour que justement ça n'influence pas trop la vie des gens, parce que forcément, si je dis que je suis l'auteur, le jeu va être bon et les gens vont au moins apprécier un minimum, alors que c'est pas toujours le cas s'ils savent pas qu'ils ont l'auteur à côté. J'aime beaucoup justement expliquer le jeu et voir la réaction des gens et voir les gens jouer, c'est un régal ça.
C'est pas trop dur des fois s'ils trouvent que c'est de la merde.
Le cas m'est jamais arrivé que ce soit vraiment vraiment de la merde. Il y a effectivement des parties où ça se passe pas bien et si ça c'est assez difficile à
après tu rentres
vivre,
et tu dois boire beaucoup.
Non, ça va, tu passes vite à autre chose. J'arrive assez facilement moi à prendre du recul sur les joueurs. Après, je fais partie de ces gens qui pensent que le jeu, c'est surtout les gens qui sont autour de la table qui font que c'est bien ou pas.
Que dans le jeu de société, il y a société.
Ouais, voilà.
Je crois que c'est à peu près aussi cliché dans le jeu de société que c'est un truc entre tradition et modernité.
C'est ça, c'est
entre rupture et continuité.
Tout à fait.
Ouais, mais c'est quelque chose que je trouve très vrai aussi. Pour le coup, il y a des jeux qui peuvent très bien fonctionner avec certains joueurs et pas du tout avec d'autres.
C'est ça. Ouais, et puis moi, je le vois tous les jours, ça. Puis je commence à connaître les gens au fur et à mesure des années, des joueurs, etc. Je vois les caractères de jeu, je vois les gens, je sais que le jeu va pas passer ou pas. Enfin, et je me rends vite compte qu'une partie d'un même jeu peut être très bonne ou très mauvaise en fonction des gens qu'il y a autour de la table et de l'implication de ces gens-là. Quoi.
D'accord. Quelque chose à rajouter, sur, que ce soit sur Arena, il y aura des tournois organisés, hein, je crois, hein, c'est ça, cet
ouais,
été.
Ouais, il y aura des tournois. Alors là, on est déjà quelques ans en mode découverte. Donc là, pour l'instant, c'est un mode de jeu découverte. Ou même si tu connais pas le jeu, tu viens au tournoi, tu fais deux parties, tu peux repartir avec des goodies à la cool. Et après, on va travailler aussi avec Maxime sur un format de tournoi
ouais, parce que c'est vrai que
un peu plus élaboré.
Parce qu'avec les règles de base, il peut y avoir un peu d'aléatoire qui ne se prête pas forcément au tournoi. Là, vous allez essayer de faire... C'est Pandémie qui avait fait ça avec un truc dans l'ordre, etc. Où vous allez...
Ouais, je suis en train de réfléchir au sujet parce que de toute façon, moi, je vais organiser un tournoi dans mon café là à la fin du mois. Donc, mais comme tous les tournois, pas forcément dans mes jeux, mais je réfléchis beaucoup à la manière dont je vais faire le tournoi. Donc là, du coup, je suis sur quelque chose qui devrait être assez potable et on va regarder ensemble avec Kevin.
D'accord, voilà. Très bien.
Sachant que les tournois, c'est avant tout un moment pour passer un bon moment. On n'est pas non plus dans le truc compétitif à fond, c'est pas non plus un championnat du monde.
Les tournois de Star Wars de JCE.
On joue pas sa vie dessus, mais voilà, enfin, ce qui est agréable, c'est passer un bon moment, pas se sentir frustré, parce que voilà, je veux dire que ça soit comme un jeu, une partie avec tes potes, une partie en tournoi, faut pas que ça soit un moment frustrant où finalement tu te sentes mal parce que tu te dis ah putain, ils n'étaient pas gérés correctement, ils n'avaient pas prévu le cas de départage d'égalité après le sixième critère et des choses comme ça. Donc c'est mieux quand même de bosser un petit peu le truc avant pour éviter ce type de retour là.
Moi je propose, si vous êtes à égalité, c'est le deuxième qui gagne, le troisième.
C'est ça.
Peut bien. À quand des règles de tournoi pour le truc le plus, hein?
Oh. Alors les trucs le plus, en fait, je fais des parties de trucs le plus à 30 personnes et où la majorité continue et la minorité est éliminée.
D'accord,
au fur et à mesure. Donc il y a quand même déjà quelque chose qui existe. Ouais.
D'accord, ok. Kevin, un truc à rajouter sur Yellow à part que c'est cool?
Non, mais si on fait un tournoi du truc le plus, on offrira une boîte d'adrénaline aux gagnants.
Pourquoi? Ah, c'est pas le FPS en jeu de plateau, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Ok, et Maxime, un truc à rajouter? On s'arrête?
Non, là-dessus, je m'arrête.
Non, tu t'arrêtes là. Ok, bah merci, et puis à une prochaine. Ciao.
À bientôt.